Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous. J'étais à 1 mètre du micro, pardonnez-moi. Je me rapproche, un petit pas de côté. Tout le monde va bien? Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ouais, tout va très bien.
En face du micro, j'étais prête à partir.
Toujours.
Oh Géraldine.
Voilà.
Comment ça va?
Bonjour à tous.
Ça va Géraldine?
Ça va très bien.
Le week-end de l'Ascension.
Ouais, sympa.
Sympa, hein. Mm-hmm. Partir quelques jours. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous nous revenez tous en pleine forme. Pour ceux qui. Il y avait du monde sur la route quand même. Hein.
Ah bah je sais pas, moi j'ai pas pris la route.
Franchement,
il y avait du monde. Géraldine,
vous voulez savoir, moi ce qui m'agace profondément, c'est que moi j'habite à une heure de Paris et que quand il y a des ponts comme ça, etc., je me prends les bouchons des départs en vacances.
Même sans partir.
Alors que je vais juste chez moi et je refais une matinale le lendemain. Bon bref, parlons de ce qui vous concerne directement. Tiens, sujet de débat posé sur la table par la CFDT. Il est impératif de rouvrir les négociations salariales. C'est un appel, un coup de gueule de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Elle demande aux patrons d'augmenter les salaires. Elle rappelle même que dans de nombreuses branches, les salaires démarrent sous le SMIC. La hausse du salaire minimum ne suffira pas à faire face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Alors ce débat, on va l'avoir avec vous ce matin. La question des salaires, est-ce que c'est votre priorité? Est-ce que c'est la priorité numéro une au quotidien pour vous? Vous nous le dites ce matin au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424.
De 2017-2018, dans ces eaux-là. On nous a même réunis pour nous dire on a été augmenté de 13 euros.
Souvent, à la fin du mois, je vais voir ma mère pour emprunter quelques euros. C'est très, 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 très compliqué.
Mais comment vous en sortez aussi? Vous entendez ces témoignages, on fait tous de la compta à la maison, la guerre, elle pèse sur votre budget avec les carburants, bien évidemment. Vos salaires qui grimpent moins vite que les prix. Est-ce que notre problème, c'est le niveau des salaires? Les patrons vont répondre à Marie-Lise Léon ce matin. On va accueillir Michel Picon à 6h40 dans le Morning, l'Union des entreprises de proximité. On va lui poser la question très simplement. Est-ce que les entreprises ont les moyens aussi d'augmenter leurs salariés? Ça fait partie des éléments du débat ce matin.
On parle aussi du projet de loi Riposte examiné au Sénat à partir d'aujourd'hui. Le texte sécurité du ministre de l'Intérieur qui promet autorité et efficacité. Et on va s'arrêter sur un point ce matin, c'est la lutte contre la drogue avec une idée pour cibler les consommateurs. Si vous consommez des stupéfiants, un juge pourra suspendre ou vous retirer le permis de conduire et ce pendant 3 ans, même si ça n'est pas au volant que vous étiez contrôlé.
Je trouve ça stupide, moi. Dans tous les cas, j'ai besoin du permis, je vais conduire. Ça ne va jamais me faire arrêter de consommer.
Alors quand on parle de fermeté, de cibler les consommateurs, de les responsabiliser aussi face au narcotrafic, est-ce qu'il faut aller aussi loin? Retirer le permis, mais encore une fois, hein, vous n'êtes pas au volant hein, quand vous êtes contrôlé. Sinon, ça allait de soi, ça, on connaissait déjà la règle. Consommateur ou non, le débat, c'est avec vous au 32-16 ce matin.
Et puis une question, pourriez-vous aller voir Patrick Bruel en concert ou au théâtre? Jamais je n'ai forcé une femme. Bruel est sorti du silence hier, accablé qu'il est par des accusations de viol et de violence sexuelle depuis plusieurs mois. On en compte une trentaine au total et ça s'accélère. Hein, 30 femmes qui l'accusent, 3 enquêtes et ce week-end, c'est l'animatrice Flavie Flamand qui a annoncé avoir porter plainte pour des faits qui remontent à son adolescence.
Alors, des associations demandent à Patrick Bruel de se mettre en retrait. Il est au théâtre et il doit attaquer une nouvelle tournée massive de 58 dates. Est-ce qu'il doit renoncer? Est-ce que vous comprenez les appels au boycott? Alors, il est présumé innocent, certes, mais à vos yeux, est-ce que Patrick Bruel doit se retirer de la scène? Le temps des affaires, le temps des enquêtes, c'est aussi le débat ce matin. Clément attend vos appels au standard, au 32-16. On lit tous vos messages WhatsApp au 06 12 424 424.
On joue cette semaine et on joue très fort. On va vous gâter avec un nouveau jeu à moins d'un mois du début de la Coupe du Monde 2026. Cette semaine, vous devenez sélectionneur. Et oui, c'est le but du jeu. La liste des 26 avec plein de cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. On va vous équiper avec la totale. Hein, vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, baby-foot, etc. Tout ça, ça se gagne jusqu'au 29 mai sur RMC. Au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer liste au 732.
À un moment, on va dire top, c'est maintenant.
Ah ouais, faudrait être vif.
Il faut renvoyer liste au 732-16. Vous allez voir, on a fait la déco, la préparation. Vous allez jouer au sélectionneur. Je vois quelques éléments des cadeaux qui s'affichent sur RMC Story. Ça commence à faire envie, cette Coupe du Monde. Et puis, comme tous les matins, il y a le mot caché, bien entendu. À n'importe quel moment du morning, on prononce un mot qui sort de l'ordinaire. Vous l'avez identifié. Vous envoyez mot par SMS au 732-16 pour tenter de gagner un banger parmi nos cadeaux, la station météo, la Cross Technologie, celle-là même où Géraldine de Moridi, j'ai la même à la maison.
Exactement. Et offert à ma maman aussi.
En plus, Géraldine, elle n'a pas de part dans la Cross Technologie.
Ah non. Bon. En attendant de recevoir la station météo, la Cross Technologie, on va se tourner vers Géraldine pour savoir quel temps il fera aujourd'hui. C'est mieux, ça s'améliore ou
alors, pas? C'est pas encore terrible pour aujourd'hui, mais on va aller vers le mieux. Vraiment, à partir de mercredi, il va faire beau et il va faire chaud. Mais c'est vrai qu'en attendant aujourd'hui, on va quand même encore avoir un temps assez perturbé. Beaucoup de nuages, des averses orageuses quasiment partout. Vous y échapperez si vous êtes sur l'Aquitaine ou en Occitanie, mais partout ailleurs, vous aurez ces averses. Avec des températures qui évoluent assez peu, donc on est toujours sous les normales de saison. Il faut compter pour cet après-midi en général 15 à 19 degrés. Il fera plutôt 19 à 23 du Rhône à la Méditerranée.
Il est 5h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, on retrouve Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, Patrick Bruel qui sort du silence.
Lui qui est mis en cause par une trentaine de femmes pour violences sexuelles, il assure dans un message sur ses réseaux qu'il n'en a jamais forcé aucune. Augmenter les salaires, c'est une idée de la CFDT. Ce matin, le syndicat évoque le contexte économique actuel. Et puis l'épisode, l'épilogue de la saison de Ligue 1 en football, vous verrez que Lille termine 3e, Marseille 5e, Nice en barrage, Nice où le terrain a été envahi hier soir comme à Nantes.
Patrick Bruel a donc pris la parole dans la soirée.
Dans un message, oui, publié sur son compte Instagram pour dire qu'il n'avait, je cite, jamais forcé une femme alors qu'il est accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes, dont l'animatrice Flavie Flamand qui a porté plainte contre lui, Rachel Sadodine.
Je ne peux plus laisser se propager des rumeurs absurdes et écœurantes. Je ne comprends pas pourquoi Flavie Flamand raconte une histoire sordide. Cette histoire est fausse. Patrick Bruel nie avoir violé l'animatrice lorsqu'elle avait 16 ans, évoque une brève histoire, ni violente ni contrainte, avant d'ajouter « Je comprends que notre différence d'âge puisse faire réagir aujourd'hui ». Un mea culpa plus qu'insuffisant pour Élise Selimovic-Lartillé, militante au sein du collectif féministe Nous Toutes.
Déjà à l'époque, c'est pas quelque chose de normal de sortir avec une mineure.
Elle regrette aussi que le chanteur n'évoque que brièvement la trentaine d'autres plaignantes et qu'il refuse de mettre sa carrière en pause le temps de laisser la justice faire son travail.
C'est une insulte en réalité aux victimes, qu'il puisse continuer son activité. Nous, on appelle au boycott de Patrick Bruel. Partout où il sera en concert, nous, on va se mobiliser.
Le collectif Nous Toutes soutient une pétition pour l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, signée notamment par l'actrice Anna Mouglalis, la comédienne Corinne Maziro ou encore la chanteuse Pomme.
Une douzaine d'interpellations à Paris après un casse, c'était ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche précisément, une vingtaine de voitures de luxe ont été volées dans le 15e arrondissement. En fait, des malfrats ont visé un parking abritant une conciergerie de luxe. Gérald Darmanin est en Algérie, le ministre de la Justice et le troisième ministre français à se rendre dans ce pays. Depuis le début de l'année, signe du réchauffement des relations entre les deux pays, il sera question de coopération judiciaire et du cas aussi du journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison par la justice algérienne. Après un reportage, le RN réclame une diplomatie de la fermeté. Voilà ce que veut le RN. Après les propos, on s'en souvient d'Emmanuel Macron qui lui avait fustigé les, je cite, « maboules » souhaitant se fâcher avec l'Algérie.
Il est 5h03 sur RMC et le Sénat s'attaque à un pavé à partir d'aujourd'hui.
Oui, avec l'examen du projet de loi Riposte. C'est ainsi qu'il est nommé et il balaye très largement les questions de sécurité en promettant un choc d'autorité face aux rodéos urbains, tirs de mortier, trafic de drogue aussi. Il est question, tiens, par exemple, de durcir les sanctions contre les consommateurs de drogue en retirant le permis de conduire pendant 3 ans sur décision d'un juge en cas de contrôle positif et même si ce n'est pas lié à la conduite. Alors, ce n'est pas fait, mais c'est une idée qui est dans le texte et qui fait déjà réagir ici, écoutez, en région parisienne avec Lou Garnier.
5 à 10 joints par jour, c'est ce que fume Alex depuis près de 5 ans. Cet électricien a déjà payé plusieurs amendes pour usage de stupéfiants. Ce n'est pas cette nouvelle mesure qui pourrait le dissuader de consommer.
Je trouve ça stupide, moi. Dans tous les cas, j'ai besoin du permis, je vais conduire. Ça ne va jamais me faire arrêter de consommer.
Comme lui, Christophe fume quotidiennement des joints. Depuis plusieurs années, il reconnaît que l'usage des stupéfiants au volant est très dangereux, mais cette mesure est injuste pour lui.
Je pense que c'est beaucoup trop abusif. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas au volant devrait être puni, pas au point de supprimer le permis. Je trouve que c'est vraiment plus fragiliser les gens précaires que vraiment obtenir de résultats.
Pour lutter contre la consommation de drogue, il faut davantage de prévention, selon lui. Jean-Baptiste Yoska est avocat, spécialiste du code de la route. Il se dit étonné par une telle mesure.
Ça revient à suspendre un permis de conduire d'une personne qui ne conduirait peut-être pas du tout, ou en tout cas qui ferait attention à ce que sa conduite ne soit pas entachée de stupéfiants.
Pour la sécurité routière, il appelle à renforcer les contrôles des automobilistes plus que des piétons.
Ce projet de loi Riposte, on a choisi de s'arrêter sur ce point-là. C'est particulièrement nouveau que cette idée de retirer le permis de conduire jusqu'à 3 ans, hein, sur décision d'un juge, à partir du moment où vous êtes considéré comme consommateur de stupéfiants, même si vous n'êtes pas contrôlé avec des stupéfiants au volant. Bonne ou mauvaise idée, la solution de la fermeté, c'est celle-là. Vous nous le dites au 32-16 ce matin.
Une autre idée, tiens, qu'on développe ce matin, celle de rouvrir des négociations sur les salaires.
Oui, alors ça, c'est une idée qui est évoquée par Marie-Lise Léon, à la tête, vous savez, de la CFDT, dans le contexte économique actuel. Impératif, donc, de rouvrir ces négociations, selon elle, notamment dans certaines branches où les grilles salariales démarrent en dessous du SMIC. Marion Degas avec Thomas Douré.
Idir travaille comme agent de sécurité, il touche près de 1400 euros par mois et quand on lui demande de quand date sa dernière augmentation de salaire.
C'était en 2017-2018 dans ces eaux-là. On nous a même réunis pour nous dire on a été augmenté de 13 euros.
Des augmentations de salaire rares et faibles, c'est ce que connaît aussi Hakim. Avec 1800 euros par mois, ce chauffeur poids lourd a de plus en plus de mal à ne pas tomber dans le rouge.
Souvent à la fin du mois, je vais voir ma mère pour emprunter quelques euros. C'est très compliqué.
Certaines branches ont encore des grille salariale qui démarre en dessous du SMIC, dénonce la numéro 1 de la CFDT, Marie-Lise Léon. C'est le cas par exemple de l'habillement, mais le contexte international rend toute augmentation de salaire impossible, selon Yann Rivoilan, président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin.
La consommation est en train de continuer à baisser dans notre secteur. Ça fait maintenant plusieurs mois que la majorité des marques ne peuvent pas augmenter leurs collaborateurs parce que tout simplement, elles n'avaient pas les marges de manœuvre.
Au total, la CFDT dénombre 47 branches d'activité où le salaire minimum démarre sous le SMIC.
Ah ben on va regarder les fiches de paye ce matin, c'est clairement le débat. Mine de rien, Marie-Lise Léon qui a le mérite de poser le débat sur la table, la question des salaires, vous faites vos courses, vous faites le plein, vous n'en pouvez plus, vous dites-nous si la question des salaires, c'est la question numéro 1 en ce moment. Et en même temps, j'en appelle aux gérants, aux petits patrons qui nous écoutent, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui d'augmenter les salaires? Marie-Lise Léon dit que toutes les entreprises ne souffrent pas de cette crise-là. Il faut aussi remettre les négociations sur la table. C'est ce que dit Marie-Lise Léon. On vous attend au 32-16 ce matin.
Il est 5h07 sur RMC. Et c'est une fin de saison très animée, voire agitée, qui s'est jouée hier soir en Ligue 1 de football.
Alors, la soirée avait commencé par l'image folle du PSG célébrant en catimini son sacre de champion chez son voisin du Paris FC. C'est Lille qui termine 3e et qui est directement qualifiée pour la Ligue des Champions malgré sa défaite 2-0 contre Auxerre, qui a pour effet d'envoyer Nice en barrage. Pour sauver sa peau, ce barrage, les Niçois n'ont pas fait mieux qu'un match nul 0-0 contre Metz. Il y a même eu un envahissement de terrain à la fin, nous raconte Maxime Thillette.
Le terrain envahi au coup de sifflet final, symbole du ras-le-bol des supporters. Le président Jean-Pierre Rivère appelle à l'union sacrée.
Sincèrement, tout le monde a mal vécu cette saison. On peut avoir beaucoup d'aigreur, beaucoup de colère, tout ce que l'on veut, mais elle n'est pas finie. Tant que c'est pas fini, il faut y aller. Mais sincèrement, on doit se dire, il faut être unis.
Nice risque de jouer ses barrages à huis clos. Avant cela, il y aura la finale de la Coupe de France face à Lens vendredi.
C'est jamais accessoire de jouer une finale de Coupe de France, mais la priorité, on le sait, n'est plus là. Ça reste une finale, on va la jouer, bien évidemment. Mais le plus important, ce sera des deux matchs qui suivent.
En Ligue 1 depuis 2002, Nice n'a gagné que 2 fois en 18 matchs de championnat avec Claude Puel cette saison.
C'est très difficile, bien sûr, pour mon staff, pour les joueurs. J'ai envie que très vite, on puisse se projeter sur ce qui arrive. La saison est un peu plus longue, mais l'épilogue peut être magnifique.
Entamé en août avec les barrages de Ligue des Champions, la saison niçoise est passée du rêve au cauchemar.
Alors le terrain a aussi été envahi à Nantes hier soir où le match n'a pas repris, match fou entre Strasbourg et Monaco. Strasbourg a gagné 5-4 et Marseille finit sur une victoire 3-1 contre Rennes et doit se consoler avec une 5e place qui est synonyme de Ligue Europa la saison prochaine. Il y a 2 résultats en rugby ce matin. D'abord ce record d'affluence pour un match féminin, 35 000 personnes hier à Bordeaux pour le dernier match du tournoi destination qui faisait office de finale et que les Françaises de François Ratier ont malheureusement perdu 43-28 contre l'Angleterre.
Grosse déception, parce que si t'es pas déçu, t'as rien à faire ici. Quand tu perds, ton pays perd. C'est une grosse responsabilité aussi pour les joueuses et c'est hors de question qu'elles s'apitoient sur leur sort, puisqu'elles ont livré une grosse bataille. On est là où on veut être, au niveau de l'avancée, pas au niveau du résultat aujourd'hui. Et ça, c'est le sport.
Puis l'autre résultat de la soirée, c'est La Rochelle qui a écrasé Toulouse 38-10 et qui se replace plus que jamais dans la course aux phases finales de top 14, très serré à 2 journées de la fin.
Et on imagine J'imagine que ça vous fait plaisir, Quentin Vinet.
Oui, bah, Toulouse, ça fait toujours plaisir.
Merci, Quentin.
La petite info du lundi matin. Ouais. Bah, bon début de semaine. Merci, Quentin Vinet. On va accueillir Alex au 32-16. Alex à Bègle, en Gironde. Bonjour, Alex.
Bonjour, Alex.
Bonjour.
Alex,
bon, là, je ne suis plus vraiment à Bègle, je suis sur la route. Hein.
Vous êtes à quel niveau?
Là, je suis vers Saint-Symphorien.
D'accord. Et ouais. Vous souhaitiez réagir ce matin avec nous sur la question des revalorisations salariales réclamées par la CFDT. Alors,
voilà, alors moi, plutôt que de demander une augmentation de salaire, je préférerais plutôt une diminution des charges. Charges de cotisation sécurité sociale, parce que les gens, ils parlent toujours du brut. Mais il faut arrêter, ça c'est un truc que j'explique à toutes les personnes avec qui j'en parle. Il ne faut pas parler du brut, il faut parler du super brut. Combien vous coûtez à votre patron comparé à ce que vous avez à la fin. C'est pas la même chose. Hein. Moi, pour que mon patron me donne 2000 euros, je lui coûte plus de 6000 euros.
Oui, oui, bien voilà. Sûr, avec les, de, tout ce que vous appelez le super brut, avec y compris les charges versées par le patron lui-même. Oui. Et pour vous, si on baissait ces charges-là, l'augmentation de salaire serait automatique ?
Eh bien oui, de facto. Regardez.
Vous dites de facto, j'en suis pas convaincu, Alex. On a déjà eu ces expérimentations.
Ça dépend de l'honnêteté du patron, moi. Personnellement,
non, mais je pense. Alors, je vais montrer personne du doigt, pas un patron en particulier. J'ai un souvenir récent, même si le temps passe, c'est l'abaissement de la TVA dans la restauration. On avait dit que ce sera un tiers investissement.
Mais l'abaissement. La TVA, c'est pas les charges, c'est pas la même chose.
Non, non, mais c'était encore une fois des frais qui devaient normalement se retrouver sur la fiche de paye. On n'a pas vu ça.
Oui, mais c'est de la TVA, normalement. Et la normalité en France, regardez, ça fait 23 ans que je cotise pour la sécurité sociale. Donc je leur ai quand même donné beaucoup d'argent. J'ai été 10 jours en arrêt maladie en 23 ans. 10 jours. Vous pensez vraiment que je vais récupérer ce que j'ai donné en trop? Non. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Je suis à 2000 euros par mois. Je paye 60 euros d'impôts. D'accord ? J'ai un ami qui a 1800 euros. Il a 190 euros de prime d'activité. Résultat, sans payer d'impôts, il touche plus que moi. Il n'y a pas de problème là aussi ?
Vous dites qu'il y a, enfin, pour le coup, il y a un problème là-dessus. Vous dites que votre ami, en l'occurrence, travaille moins ou pardonnez-moi, je peux être précis.
Son salaire est à 1800 euros.
C'est juste que le salaire et qu'il y a la prime d'activité. C'est Ali qui réagissait aussi sur la prime d'activité.
Ouais, on veut 180 euros de prime d'activité.
Alex, pour vous, la question des salaires, c'est pas la question du moment.
Non, mais non, regardez, par exemple, là, ils font une augmentation de, ça revient à 34 euros. Mais, on fait pas la charité. Nous, ce qu'on veut, c'est une réelle augmentation. 34 euros, vous voulez qu'on fasse quoi avec 34 euros? Je vais faire la manche pendant une heure, je l'ai fait, les 34 euros. C'est comme si on faisait la charité. Et en plus, un patron, pour qu'il nous donne 34 euros, ça lui coûte 60 euros. Voilà.
Merci, Alex. Peut-être même plus, puisqu'on expliquait qu'il y aurait des abaissements des aides aux entreprises qui pourraient sauter, mais ça, c'est pas encore fait. Peut-être même plus que le simple double. Merci, Alex, d'avoir réagi ce matin au 32-16. Marie-Lise Léon, qui demande au patron d'augmenter les salaires. Alex nous dit c'est pas le sujet, la question, c'est les charges. On en parle avec vous au 32-16, il est 5h12.
Et dans un instant, c'est l'heure de la solution conso. Géraldine Demory, sur quoi on économise aujourd'hui?
Je vais vous éviter de perdre de l'argent, surtout avec les arnaques à la pompe. On va voir comment on peut les éviter.
Et puis avant cela, il y aura le choix de la rédaction en Corse. Des malades sont obligés de prendre l'avion pour aller se faire soigner sur le continent, faute de CHU sur l'île. Ça va changer. Enquête à suivre dans un instant sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h14 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Être obligé de prendre l'avion ou le bateau pour vous faire soigner parce que vous vivez dans un désert médical, c'est ce que vivent des dizaines de milliers de Corses chaque année. Car s'il y a des hôpitaux et des cliniques sur l'île, la Corse n'a pas de CHU, de centre hospitalier universitaire, et elle manque donc de spécialistes et de matériel pour soigner de nombreuses pathologies.
Bonjour Anna Jojard.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans le Sud-Est et vous vous êtes intéressée à ces patients corses bien obligés de se rendre à Nice, Paris ou encore à Marseille pour se faire soigner.
J'ai rencontré ces patients voyageurs dans une salle de l'aéroport de Marseille, l'Aria Serena, un espace tranquille de 50 mètres carrés calfeutré, loin du brouhaha du terminal 1, mis en place par la compagnie Air Corsica depuis 2017, avec l'aide d'associations de patients pour permettre à ces malades de se reposer entre deux avions. Et c'est le chef d'escale d'Air Corsica, Jean-Dominique Grossobellini, qui nous fait la visite.
On a un espace de détente, un espace de repos,
avec un canapé, des fauteuils confortables, une table pour se restaurer, une télévision.
On a des passagers avec qui on tisse des liens parce qu'on sait qu'ils sont là pour se faire soigner.
Sur le canapé en cuir devant la télévision, Marie-France se réveille d'une sieste.
Heureusement qu'il y a cette salle, c'est calme. On peut se reposer vraiment.
Elle sort de sa chimio pour soigner son cancer du pancréas.
Ça fait 7 mois.
7 mois.
7 mois tous les 15 jours, je viens. Et c'est fatigant parce qu'on se lève de bonne heure. On part le matin à 7h15 et on rentre par le dernier avion à 22h. Ça fait une longue journée, plus la chimio. On a envie de rentrer le plus vite possible et se reposer.
Dans un coin de la salle, Océane, 19 ans, attend son vol, accompagnée de sa mère Céline. Elle est suivie depuis ses 16 ans à Marseille pour un problème de circulation sanguine.
Je fais des études à la fac de Corté. Donc forcément, oui, on doit caler les rendez-vous entre... prévoir avec les examens, tout ça. C'est une petite réflexion à faire à chaque fois.
C'est toute une organisation tout le temps. Je dis, parce que moi, j'ai ma fille, mais j'ai deux autres petits garçons à la maison. Et, enfin, c'est une organisation de fou, quoi. C'est vrai qu'en Corse, c'est compliqué. Ouais. Vu le nombre de populations qui y résident à l'année, c'est quand même vraiment... très très dommage qu'il n'y ait pas ce qu'il faut pour pouvoir se soigner, quoi.
Et Céline, cette maman que vous venez d'entendre, parle aussi des coûts supplémentaires que cela représente pour sa famille de venir sur le continent pour accompagner sa fille malade.
Et oui, Anna, car l'assurance maladie, elle rembourse le voyage du patient, mais pas tout le temps celui de l'accompagnateur.
Oui, c'est en fonction de l'état de santé du patient que l'assurance maladie détermine s'il peut être accompagné ou non. Les mineurs de moins de 16 ans ont le droit à la prise en charge de deux accompagnateurs depuis 5 ans, une dérogation accordée à la Corse grâce au combat mené par les associations de patients comme INSEM, qui veut dire Ensemble en Corse, fondée par Laetitia Kou, qui elle-même autrefois concernée par ses allers-retours médicaux. Cette association aide les patients administrativement et aussi financièrement, car par exemple l'hébergement sur le continent est rarement remboursé. C'est pourquoi l'association de Laetitia achète des appartements destinés aux patients corses.
On en a 6 à Marseille, 3 à Nice et 1 à Paris. Et malheureusement, ils sont constamment saturés. Ça ne suffit pas. La demande est trop importante. Il faut continuer à lever des fonds, continuer à acheter des appartements, continuer à financer les billets d'avion qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est pas normal que la société civile, que le secteur associatif, que les citoyens doivent se mobiliser eux-mêmes pour faire face à une problématique d'accès aux soins qui est connue de tous depuis des décennies.
Et derrière cette situation, il y a un risque, celui du renoncement aux soins pour certains malades. C'est donc pour tenter de rétablir une égalité d'accès aux soins en Corse que le Sénat a voté en février en faveur de la création d'un CHU sur l'île d'ici 2031.
Merci Anna Jojard, correspondante d'RMC à Marseille. Et tiens, si vous êtes en Corse, si vous êtes vous-même Corse, vous nous appelez ce matin, vous nous dites si c'est la galère pour vous soigner ou soigner vos proches. Le 3216 vous est ouvert, il est 5h18.
Ah, c'est l'heure des choix de la bande. Ces infos qu'on a dénichées dans la presse. Bonjour Arthur Asquin.
Bonjour Mathieu Béliard.
Tout va bien Arthur?
Bonjour Élise Dangean.
Ah merci.
Et vous revenez de New York Arthur?
Oui absolument. Une rue Thierry Henry à New York. Bon l'idée est sympa. C'est devenu une petite bombe diplomatique. En fait à un mois de la Coupe du Monde, il y a des élus new-yorkais qui ont proposé de rebaptiser temporairement certaines rues, la Thierry Henry Way à Manhattan, ou encore la Pelé Way dans le Queens. Sauf que dans les quartiers irlandais de la ville, ça passe pas parce que 16 ans après la main de Henry en barrage contre l'Irlande, c'était en 2009 qui a qualifié la France pour le Mondial 2010, c'est toujours pas oublié. D'ailleurs, les supporters irlandais ont une contre-proposition, la ruelle de la main. Voilà. Et le comble, c'est que la conseillère municipale à l'origine de cette idée est elle-même d'origine irlandaise. Elle a confié avoir beaucoup appris sur le sujet ces dernières semaines. Donc apparemment, elle suivait pas du tout le foot.
Bon, Thierry Henry, les Américains.
Ouais,
ils s'y mettent petit à petit.
Oui, c'est vrai. Bon, Thierry Henry, lui, il sera bien à New York, hein, en chair et en os, cet été, comme consultant pour Fox Sports. Et des champions du monde, il y en aura aussi et surtout sur RMC. Hein, Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Lionel Charbonnier, pour vous faire vivre la Coupe du Monde sur RMC.
C'est vrai qu'on a 4 champions du monde dans la Dream Team.
Ouais,
ça, c'est la classe.
Il y a presque de quoi faire une équipe.
De basket.
Ouais, même de basket, c'est un peu de chute.
Non, mais Thierry Henry qui a joué à New York, non, en fin de carrière.
Et oui, il a joué à New York Red Bulls.
Comme Pelé, d'ailleurs.
Et absolument. C'était les Cosmos à l'époque.
Exactement. C'est pas passé 16 ans après pour les Irlandais.
Non, après, c'est
dû, on a vu le documentaire Le Bus là, sur Nice Nectar.
C'est parmi de Schumacher.
On se dit qu'on aurait peut-être dû les laisser, les laisser passer pour 2010. Élise, Coupe du Monde aussi?
Ouais, je vous emmène en Norvège, moi, où il sera bientôt possible de boire toute la nuit. Le pays est pourtant très strict sur la consommation d'alcool. Ah bon, l'alcool qui ne s'achète que dans des magasins d'État. La pub est interdite et surtout les bars ne peuvent en servir que jusqu'à 3h du matin. Mais là, les circonstances sont exceptionnelles. Et le Premier ministre norvégien l'a bien compris, son pays n'avait plus participé à la Coupe du Monde depuis 1998, ça vous rappelle quelque chose. Alors pour célébrer et pallier le décalage horaire, il souhaite permettre aux bars qui disposent d'un écran géant de servir de l'alcool jusqu'à 6h du mat. Mais attention, uniquement de la bière ou du vin, l'alcool fort sera interdit. La proposition devrait être adoptée par le Parlement à la fin du mois, mais ce sont les communes qui auront le dernier mot. Une mesure évidemment temporaire, dont les Norvégiens pourraient avoir grand besoin le soir du 26 juin quand ils auront été corrigés par la France.
Ah ouais, on est en pleine détente, c'est parti quoi.
Moi j'y vais.
C'est parti, mais de toute façon ça approche à vitesse grand V.
Allez, on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé.
Oui, des Français comme des Norvégiens.
Oui,
évidemment. Moi je vous emmène à Marseille. Il y a un magistrat qui est en passe d'être révoqué, un juge marseillais, 47 ans. Il est en audience disciplinaire pour avoir fraudé des péages. Il a grugé l'autoroute près de 200 fois entre 2023 et 2024. Alors tout magistrat qu'il est, il n'avait pas de méthode particulière. Il a utilisé la technique du petit train, celle qui consiste à coller le véhicule qui précède et à passer avant que la barrière ne se referme. Lui circulait à scooter, ce qui rend la chose encore plus simple. Ça allait plus loin avec un système de fausses plaques. Il déposait des fausses plaintes pour usurpation d'identité, usurpation de plaque d'immatriculation, et il contestait ainsi les verbalisations, ainsi de suite. Bon, il a fini par se faire pincer, 14 mois avec sursis, 16 000 euros d'amende, mais là il a tout fait pour se faire pardonner, pour pouvoir rester magistrat. Il a présenté ses excuses, il a dit qu'il avait honte, il a invoqué le traumatisme de l'attentat de Nice en 2016. Pas sûr que ça lui évite la révocation de ses fonctions de magistrat. 5h21, la technique du petit train.
On note.
Quand c'est un juge, ça la fout mal un peu.
Oui, fout mal.
5h21 sur RMC, RMC Story. Les trois grands titres de l'actualité, Élise.
Jamais je n'ai forcé une femme. C'est par ces mots que Patrick Bruel est sorti du silence hier dans un post Instagram qui répond aux accusations de viol et d'agression sexuelle qui le visent, une trentaine au total. Et notamment la dernière en date, celle de l'animatrice Flavie Flamand, qui fait partie des 5 femmes à avoir porté plainte contre lui. La France multiplie les gestes d'apaisement envers l'Algérie et envoie aujourd'hui son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur place. Et puis le bilan des courses au lendemain de la dernière journée de Ligue 1. Lille valide son ticket direct pour la Ligue des Champions. Lyon devra jouer 2 tours de barrage et l'OM sauve les meubles en décrochant la Ligue Europa.
Il est 5h22.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, Géraldine a ses astuces conso pour nous permettre de faire quelques économies. On en a bien besoin. Ce matin, vous nous mettez en garde contre les arnaques à la pompe.
Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup ce week-end de pont. Et je peux vous dire que c'est pas terminé. Par exemple, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu l'arnaque au pistolet mal raccroché. Donc ça concerne les stations qui sont ouvertes 24h sur 24, où il n'y a personne physiquement à la caisse. Alors comment ça marche? Vous allez être abordé par quelqu'un qui est un petit peu en panique parce que sa carte bancaire ne fonctionne pas. Et donc il peut pas faire le plein. Il a un peu de liquide. Donc il propose de vous donner 10 euros. En échange, vous prêtez votre carte. Vous surveillez bien effectivement qu'il ne dépasse pas les 10 euros. C'est le cas, il raccroche le pistolet, vous repartez. Sauf qu'en réalité, il va mal raccrocher le pistolet. Et donc, une fois que vous êtes parti, il va pouvoir finir tranquillement de se servir sur votre carte.
Bon, comment est-ce qu'on peut l'éviter?
Alors, je sais que vous êtes très généreux, je le sais. Mais malheureusement, le premier réflexe quand on vous demande de l'aide, ça va être de vous méfier. Si vraiment vous voulez aider, utilisez vous-même le pistolet pour être sûr qu'il sera bien raccroché. Attendez le ticket de carte bancaire. Mais même ça, c'est pas forcément suffisant. D'abord, parce que le ticket sort pas tout le temps. Et puis, parce qu'il y a une autre arnaque au pistolet mal raccroché. Pour cette arnaque, les escrocs utilisent une simple boulette de papier d'aluminium, et lorsque vous raccrochez le pistolet sans vous en rendre compte, en fait vous allez poser le pistolet sur cette boulette, ce qui fait que le capteur ne va pas voir en fait que vous avez fini de vous servir, et résultat, l'automobiliste derrière vous n'aura qu'à se servir et vous payerez pour son plein. Pour éviter ces arnaques, il faut vraiment attendre un petit peu, vérifier que la transaction est vraiment terminée avant de partir.
Ticket caisse, vous avez raison.
Faut se méfier aussi quand on insère la carte bancaire.
Ouais, ça c'est le skimming, c'est un petit dispositif qui est très discret, qui est installé directement sur le terminal de paiement. Il va copier les données de vos cartes et les envoyer directement aux escrocs. Donc là, pour éviter, faut essayer de regarder un petit peu le terminal. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il bouge pas? Mais malgré tout, c'est quand même un dispositif qui est très discret. Donc si c'est possible, privilégiez le paiement sans contact ou le paiement avec votre téléphone portable. Et c'est moins dangereux.
Non, mais ça fait. Enfin, on se dit qu'en ce moment, évidemment, ces techniques, elles sont pas nouvelles, mais on se dit que
elles sont
en ce moment avec
nombreux,
le prix des carburants, ça doit exploser.
Moment,
merci beaucoup, Géraldine Demory. La solution conso à retrouver en podcast sur l'application RMC, à partager aussi. 5h24.
5h7h.
5h7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h26 sur RMC et RMC Story. On va parler un peu plus tard de l'Eurovision et de tous ces sons et lumières dans tous les sens. Mais là, s'il vous plaît, un peu d'euphonie.
Et oui, parce parce que j'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer. Alors non, ça n'est pas mon mariage, ça c'est déjà fait. La chanteuse Louane, elle, s'est mariée ce week-end. C'est le jour. Son compagnon Florian Rossi, lui aussi chanteur, connu sous le nom de Pégase, avec lequel elle avait partagé le titre Soleil en 2024.
Et chaque seconde me brûle quand t'es pas là.
Alors les deux tourtereaux ensemble depuis 8 ans se sont unis à Pertuis, dans le Vaucluse, près d'Aix-en-Provence. Les mariés voulaient une ville authentique, typiquement provençale, avec une belle église. Ça, c'est ce qu'a dit Monsieur le maire à nos confrères de la Provence.
Donne-moi ton cœur.
Et pour l'occasion, près de 200 personnes se sont réunies, notamment Stromae, Soprano, Mika, M. Pokora, voilà, tout le gratin de la chanson française. Autant d'artistes qui ne devaient pas être devant leur télé
un
samedi soir
casting,
pour, bah oui, pour soutenir la France à l'Eurovision. Du
coup, bah, au mariage.
Non, c'est pas la finale de la Coupe du
T'as
monde
pas envie de voir les Bulgares danser à ton mariage
à petite personnelle, non. Louane, je sais pas. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a très exactement un an, elle participait au concours avec la chanson Maman qu'on entend là et qui lui avait permis de finir à la 7ème place. C'était donc mieux que Monroe qui a terminé, on le rappelle, 11ème.
Et on va en reparler un peu plus tard. Bah, bravo, félicitations aux jeunes mariés. On va écouter le meilleur d'Arnaud Demange. Mais je vous rappelle d'abord qu'on joue ce matin. On joue d'abord au mot caché. On a prononcé dans le morning un mot qui sort un peu de l'ordinaire. On va le redire parce que c'était un peu discret. Si vous pensez l'avoir identifié déjà, vous envoyez mot par SMS au 732-16.
Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre station météo connectée, la Cross Technologies, le leader français des données météo. Vous envoyez mot au 732-16.
Le mot caché sur RMC avec la Cross Technologies. Le leader français des stations météo pour garder un temps d'avance sur la météo.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Allez, on revient tout à l'heure en direct dans Apolline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance. C'est le meilleur d'Arnaud Demange.
Toujours aussi heureux de vous retrouver en ce vendredi du pont de l'Ascension. On salue aussi les 6 auditeurs qui nous écoutent pendant que le million habituel fait la grasse mat. Et on n'est pas bien là tous les 10, hein, franchement, c'est cool. Alors, comme c'est une journée pas hyper importante, eh ben, c'est l'occasion de parler des sujets sans intérêt. Et vous allez voir comme ça tombe bien.
Oula.
Florian Philippot, le président des Patriotes, a annoncé être candidat à l'Élysée. Donc Nicolas Dupont-Aignan voit débarquer un rival sur le marché des complotistes pro-russes et anti-vax et ils vont se battre tous les deux pour 1% des voix. Quel match! En football, ça s'appellerait le Patético.
Vous avez raison, c'est une info
de
jour férié.
C'est une info, alors là, fin de semaine, fin de week-end. Alors, petit conseil pour Florian Philippot, n'imprime pas des affiches tout de suite, mon grand. À la dernière présidentielle, il avait reçu un seul parrainage. Voilà, un. Et je pense d'ailleurs que c'était une erreur ou une arnaque, genre...
Et vous êtes sûr, vous êtes Édouard Philippot, l'ancien Premier ministre?
Ouais, ouais, signez-la, monsieur le maire. Aux européennes, il avait été battu par le Parti Animaliste. Il avait été battu par une affiche où il y a un chat. Sur la prochaine, il pourrait se déguiser en chien avec un collier et une babale au pied de Poutine. Ça lui irait bien.
Arnaud Demange qu'on retrouve à 7h20 et 8h20 dans Apolline Matin et quand vous voulez en podcast sur l'application RMC.
Mais tout de suite, on va regarder la météo du jour. Géraldine, légère amélioration?
Pas petite dans le sud, mais globalement, il va falloir attendre un petit peu. C'est vraiment à partir de mercredi qu'il va faire très beau et chaud. En attendant pour aujourd'hui, on va quand même avoir encore beaucoup de nuages et puis on va avoir des averses orageuses pratiquement partout. Vous y échapperez seulement sur l'Aquitaine et en Occitanie, où là, vous aurez même de belles éclaircies. Les températures évoluent assez peu. Pour l'instant, on est toujours sous les normales de saison. Cet après-midi, comptez 15 à 19 degrés en général. 19 à 23 degrés de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée. Demain, on aura une petite perturbation qui va traverser le pays, les éclaircies qui vont revenir ensuite par le nord-ouest. Puis je vous le disais, à partir de mercredi, ça y est, là, il va faire beau et on passera au-dessus des normales de saison.
Il est 5h30.
5-7, le Morning RMC.
C'est l'heure de retrouver Thibaut Texer pour un nouveau journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Et alors attention, si vous partez en vacances cet été.
Vous vous êtes peut-être fait voler vos données si vous avez réservé sur Pierre et Vacances, Bel en Bras ou Gîte de France. Piraté ce week-end, des millions de données personnelles ont été hackées. Le procès d'un homme aujourd'hui soupçonné d'avoir frappé, violé et livré sa femme à des centaines d'hommes forcés à se prostituer pendant 7 longues années. Le dénouement de la saison de Ligue 1, Lille directement qualifiée pour la Ligue des Champions, l'OM sauve les meubles et jouera la Ligue Europa. Auxerre se sauve, Nice jouera les barrages.
Le secteur du tourisme ciblé par une importante cyberattaque.
Après Pierre et Vacances et Bellambra en début de week-end, c'est Gîtes de France qui annonçait à son tour hier avoir subi le vol de plusieurs centaines de milliers de données. Près de 390 000 clients pourraient être concernés. Le pirate qui a revendiqué les attaques dit avoir dérobé des données de réservation s'étalant sur plus de 30 ans. Et le problème, Pierre Borges, c'est que cela concerne aussi les réservations à venir.
Oui, le fondateur de French Bridge, le site qui a révélé ces piratages, a pu accéder à un échantillon de ces données.
C'est des données très sensibles. Vous avez des noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, date de séjour, durée des vacances, parfois même le nombre d'enfants ou même des informations liées à des mineurs.
Autant d'informations qui peuvent permettre à des escrocs de se faire passer pour le responsable de votre hôtel ou encore de votre loueur de voiture, prévient David Soria, expert en cybersécurité.
Ce qu'ils vont essayer de faire, ça va être essayer d'avoir vos codes de carte bleue, même pour des très petits montants. Est-ce que vous voulez payer votre taxe de séjour en avance? On peut vous surclasser pour à peine 10 euros, est-ce que ça vous intéresse, etc. La somme sera vraisemblablement ridicule. Vous avez donné vos codes de carte bleue, et ça se revend très cher. Ils peuvent siphonner votre compte, faire plein de choses, etc.
Il appelle donc à la plus grande vigilance dans les prochains mois si vous avez réservé un séjour chez l'une de ces entreprises de voyage. Les experts craignent aussi de possibles cambriolages avec le vol de l'adresse des clients et les dates de leur futur séjour.
Accusé par de violence sexuelle par une trentaine de femmes, Patrick Bruel sort du silence. Il répond surtout à la plainte déposée pour viol par Flavie Flamand, des faits qu'il conteste. « Je n'ai jamais forcé une femme », dit le chanteur, qui explique sa volonté de poursuivre sa carrière.
Est-ce que vous pourriez aller voir Patrick Bruel en concert ou au théâtre? Il y a beaucoup d'associations qui lui demandent de renoncer, notamment à la tournée de 58 dates qui doit démarrer dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il doit renoncer? Est-ce que vous comprenez les appels au boycott? On parle de ce dossier Patrick Bruel ce matin avec vous au 32-16.
À la une également ce procès qui n'est pas sans rappeler celui des viols de Mazan.
Celui d'un homme, directeur de banque, soupçonné d'avoir frappé, violé et livré son ex-compagne à des centaines d'inconnus, la forçant à se prostituer, Julie Brault, et ce pendant 7 longues années.
7 ans au cœur de l'enfer, pendant lesquels Laetitia dit avoir subi les insultes, les coups et les viols de son compagnon, et puis la prostitution forcée, livrée à des centaines d'hommes inconnus pour lui infliger des rapports sexuels extrêmes, explique son avocat, Maître Philippe-Henri Honegger.
C'est des hommes qui sont recrutés, ils lui faisaient subir les pires sévices. Elle se sent totalement déshumanisée, elle dit « j'en peux plus ». C'est insupportable, c'est pas possible, j'y arriverai pas.
Des actes de torture subis sous la menace constante de son compagnon.
Des menaces à sa vie, à ses enfants. On vous dit, fais ça, et si tu le fais pas, je vais te tuer. Si tu le fais pas, ce soir, je vais te tabasser jusqu'à ce que je t'en décroche la mâchoire.
Épaulée par une amie, Laetitia a finalement trouvé le courage de porter plainte en 2022. Aujourd'hui, elle attend que son bourreau présumé soit jugé lors d'un procès public aux yeux de tous.
Alors qu'il a essayé de la réduire au silence, elle veut montrer que la peur, la honte doit changer de camp. Si pour une seule femme, son exemple à elle puisse aider, comme l'exemple du fait qu'on peut s'en sortir.
L'accusée, placée en détention provisoire depuis 4 ans, assure que Laetitia a toujours été consentante.
Autre procès à Marseille, celui des membres présumés du clan Yoda et son chef présumé Félix Bingui, qui s'est livré à une guerre sans merci contre la DZ Mafia pour conquérir des points de deal à Marseille. La lutte contre la DZ Mafia sur la table des discussions. Gérald Darmanin, il est attendu en Algérie aujourd'hui. Nouvelle étape du réchauffement des relations entre Paris et Alger. Ce sera aussi pour le ministre de la Justice l'occasion d'aborder la situation du journaliste Christophe Glaize, condamné à 7 ans de prison. Cyprien Pézril.
Oui, Gérald Darmanin pourrait être reçu par le président algérien. Un rendez-vous stratégique s'il en est, puisqu'Abdelmajid Tebboune a le pouvoir de gracier Christophe Glaize, comme il l'a déjà fait pour Boualem Sansal. Une grâce, c'est désormais le seul moyen pour le journaliste français d'être libéré avant la fin de sa peine. Il a renoncé en effet à ce pourvoir en cassation. L'espoir de son retour est réel pour le garde des Sceaux, mais le meilleur moyen de le libérer est de ne pas trop parler, prévient le ministère de la Justice. Au-delà du sort de Christophe Glaize, aujourd'hui, il sera aussi question de coopération judiciaire, notamment pour lutter contre la criminalité organisé, mieux ciblé par exemple des chefs de la DZ Mafia, bref, relancer la machine entre Paris et Alger, après des mois de brouille, entretenu en particulier par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Fin avril, Emmanuel Macron fustigeait, je cite, les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie.
Le nouveau paquet d'aide pour le mois de juin dévoilé jeudi par Sébastien Lecornu, des aides destinées aux secteurs les plus impactés par la hausse des prix des carburants en lien avec la guerre au Moyen-Orient, un conflit qui ne semble pas s'apaiser. Donald Trump menace à nouveau Téhéran, il n'en restera rien de l'Iran s'il n'accepte pas un accord, dit le président américain.
Il est 5h35 et la Ligue 1 a livré son verdict.
38e et dernière journée hier soir, multiplex durant lequel le PSG a célébré son titre de champion de France en catimini sur la pelouse de son voisin, le Paris FC, vainqueur face aux finalistes de la Ligue des Champions de 2-1. Lens et Lille se qualifient directement pour la Ligue des Champions. L'on passera par le tour préliminaire et puis l'OM sauve un peu les meubles avec une 5e place synonyme de Ligue Europa, vainqueur hier soir au Vélodrome Florent Germain, 3-1 face à Rennes.
Oui, l'OM tient son lot de consolation. Même si ce n'est que la Ligue Europa, il y aura bien l'année prochaine un parfum européen au Vélodrome. L'entraîneur Habib Bey est apaisé par cette 5e place.
C'est une fierté d'avoir pu, jusqu'au bout, rester avec mes joueurs dans cette volonté de finir sur une note positive. Et ça, aujourd'hui, personne ne me l'enlèvera et c'est aussi là que je trouve ma satisfaction.
Discours bien différent chez le directeur du football. Mehdi Benatia quitte l'OM sur un sentiment de gâchis malgré cette victoire contre Rennes.
Si on m'avait fait signer en début d'année pour finir troisième, la vérité c'est que j'aurais dit non. Nous on allait chercher au minimum la 2e place, on était ambitieux parce que c'est normal. Tu as une équipe qui est compétitive, tu es capable de faire des bonnes choses, donc tu te dois d'aller tout le temps chercher le plus haut possible. Pour moi bien sûr c'est un gros gâchis.
D'ailleurs le Vélodrome a beaucoup sifflé hier et s'est vidé rapidement après le match. Les supporters marseillais sont surtout soulagés que cette saison galère soit enfin terminée.
Et c'était la 34e et dernière journée en queue de classement. Auxerre s'est sauvé in extremis grâce à sa victoire sur Lille. C'est Nice qui se retrouve donc en situation de barragiste après la finale en Coupe de France face à Lens. Vendredi, les Aiglons joueront leur place en Ligue 1 la semaine prochaine face à Saint-Étienne.
Vous nous aviez emmené à Marseille, on y reste pour les courses Marseille-Borély?
Ben oui, sous le soleil, 13h55, l'As court plus Vix. Et le favori de la Dream Team RMC, l'outsider, c'est le 14, l'Infa Sommaire, l'As c'est le 14.
Merci beaucoup Thibaut Texier. Non, je regardais l'Infa Sommaire.
Oui, je...
Merci beaucoup Thibaut Texier, il est 5h37 sur RMC et RMC Story. Philippe est en ligne avec nous, on est dans l'Ain. Bonjour Philippe.
Bonjour toute l'équipe.
Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Est-ce que c'est ça l'enjeu? On a Marie-Lise Léon qui tape du poing sur la table et qui dit les entreprises doivent augmenter les salaires. Elle pose le débat, elle appelle à une réouverture des négociations et rappelle aussi que de nombreux emplois se démarrent sous le SMIC. Philippe?
Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de rapprocher le plus rapidement possible le brut du net en baissant les charges. Et puis moi, j'aurai des mesures très radicales. Ceux qui veulent pas bosser, eh ben, au bout d'un moment, on coupe la pompe à pognon. Et puis s'ils veulent pas bosser, ils se débrouillent. Et puis on arrête de taxer tout le monde, les patrons, les salariés, on baisse les charges, on réduit le train de vie de l'État, et puis tout le monde sera content.
Ça a l'air tellement simple, Philippe.
Mais oui, parce que on appelle ça du courage politique. Moi, vous savez, dans 2 mois, ça fera 44 ans que je bosse. Quand je vois des jeunes qui, au bout de deux, ils se mettent en arrêt parce qu'ils ont le nez qui coule ou qu'ils ont 37 de fièvre ou un truc comme ça, il faut y forcer à aller au boulot.
C'est les médecins qui mettent en arrêt. Je corrige toujours hein, quand on parle de gens qui se mettent en arrêt. Il y a même une pub maintenant qui tourne avec ça. C'est le médecin hein, qui met en arrêt maladie.
Eh ben oui, mais il y a un moment, les médecins, je ne sais pas quel médecin ils ont, parce que moi, le mien ne va pas m'arrêter pour ça.
Non, mais Philippe, je n'ai pas l'impression que vous ayez envie en plus de vous arrêter. Quand je
écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas mort, c'est encore en pleine
forme. Non, mais pardon, blague à part, parce que vous avez mis le problème et la solution. Vous dites qu'il faut rapprocher le brut du net. Bon, oui. Si on baisse les cotisations salariales ou patronales, on ne va plus avoir les moyens de financer la protection sociale. Mais vous dites on coupe sociale, le chômage. En fait, on coupe toutes les aides, tout le chômage.
Mais moi, il y a une protection sociale où je ne suis pas pour.
Oui, ouais, j'entends. Mais je résumais ce que vous disiez, Philippe. En tout cas, la solution.
Moment,
pour
les
payants,
si vous ne les forcez pas à aller au boulot, ils diront jamais.
Alors, vous êtes payé par une collectivité, si je ne dis pas de bêtises, Philippe. Mais pour vous, la solution, ce n'est pas de demander aux entreprises d'augmenter les salaires.
On ne demande pas aux entreprises d'augmenter les salaires. Moi, j'ai ma femme et mes deux gamins qui bossent dans le privé. Ils ont eu tous les trois une augmentation de salaire.
Oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, Philippe.
Mais oui, mais ce n'est pas le cas parce que l'entreprise, elle est assez pérenne pour pouvoir se le permettre.
Non, mais j'entends. Mais alors, ce que dit Marie-Lise Léon, c'est pour ça que je la cite. Elle précise, il faut responsabiliser les employeurs. Certaines entreprises vont très bien. Évidemment que dans des entreprises de transport ou qui sont impactées par la crise en ce moment, tirent la langue. Vous vous dites pas qu'il y en a certains qui tirent bien leur épingle du jeu et qui pourraient peut-être participer plus?
Vous croyez que les syndicats, ils sont crédibles quand ils font des propositions? Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ceux qui sont syndicalistes.
Je pense c'est que Marie-Lise Léon, elle travaille. Mais
ils savent pas ce que c'est.
Mais je trouve ça un peu réducteur, Philippe. Je trouve ça un peu réducteur, même si ça va évidemment avec la décrédibilisation des syndicats. Mais Mais Philippe, non, mais y a pas de souci. Je trouve ça un poil réducteur. Après, c'est vrai que les syndicats aujourd'hui manquent de crédibilité et de représentation aussi. Hein. On en a parlé très récemment encore ici. Merci Philippe de votre appel au 32-16. Philippe,
bon,
dans l'Ain.
Continuez bien.
Ben, on continue, c'est promis. Vous aussi, bon courage au boulot. Il est 5h40.
Et dans un instant, c'est l'homme du jour avec vous, Virginie Fulpin.
Oui, le chat n'est pas que le héros d'une BD. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour narcotrafic à Marseille.
Et juste après, sur RMC et RMC Story, la crise du carburant toujours, la location de voitures entre particuliers qui explose. Vous allez l'entendre, restez bien sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Et l'homme du jour, c'est Félix Bingui. Le procès du chef présumé du clan Yoda débute aujourd'hui à Marseille, Virginie Fulpin. Et alors Félix Bingui, il est accusé avec 19 autres prévenus de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de blanchiment.
Et Félix Bingui a 36 ans et il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Marseille pour 3 semaines est la nouvelle étape d'un parcours judiciaire déjà très long pour celui qui se fait appeler Féfé ou le chat. Celui que les enquêteurs considèrent comme le chef du clan Yoda, le clan rival de la DZ Mafia sur la scène du narcotrafic à Marseille. Félix Bingui a été arrêté à Casablanca en mars 2024 alors qu'il était en prison au Maroc. Il a été condamné à 6 ans de prison en France pour trafic de stupéfiants. Et au début de l'année 2025, il a été extradé vers la France. Depuis, il a d'abord été incarcéré à Fleury-Mérogis avant d'être transféré dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, centre pénitentiaire dont il a été extrait pour ce procès qui s'ouvre à Marseille.
Alors, il va être jugé avec 19 autres prévenus pour la gestion de plusieurs points de deal dans Marseille, dont l'un des plus importants de la ville.
Oui, le point de deal La Fontaine, situé à l'entrée de la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement de Marseille, un des points les plus lucratifs au début des années 2020, avec des files d'attente et des embouteillages impressionnants, d'après les témoignages des policiers. Le réseau était très bien organisé, avec une hiérarchie bien établie. Les enquêteurs estiment qu'à la tête de ce réseau figurait Félix Bingui, mais lui... Il assure qu'il n'a rien à voir avec tout ça, qu'il est étranger à ce dossier. Il explique d'ailleurs qu'il passait le plus clair de son temps au Maroc ou à Dubaï. Les enquêteurs rétorquent que c'est lors de ses passages à Marseille qu'il organisait des réunions et donnait ses instructions.
Et alors, Félix Bingui, il avait un train de vie fastueux.
Oui, le petit gars né à Alès en 1990 a fait du chemin. Aujourd'hui, son casier judiciaire comporte 13 mentions, la plupart pour vol. Il a commencé par des cambriolages à Montpellier avant d'arriver à Marseille pour faire ses premières armes avec l'équipe d'écart, mais de glisser peu à peu vers le narcotrafic, d'après les policiers. Le chat bénéficie du statut de résident à Dubaï, où il possède 2 villas luxueuses pour un montant de près de 3 millions d'euros. Et ses séjours à l'étranger ou dans les Alpes ont toujours lieu dans des hôtels très chics. Il arbore des montres coûteuses, des vêtements de grandes marques. Là aussi, Félix Bingui a une réponse. Il est très doué en paris sportif et c'est comme ça qu'il gagne beaucoup d'argent. C'est ce qu'il a expliqué. En tout cas, c'est lors de l'un de ses séjours à l'étranger, à Phuket, en Thaïlande, que la guerre entre le clan Yoda et la DZ Mafia aurait commencé. D'après les enquêteurs, on était en février 2023. Félix Bingui se trouvait dans une boîte de nuit et la tension serait montée avec un des futurs membres de la DZ Mafia. Il aurait lancé un glaçon au visage de Mehdi Larrebi et voilà d'où est partie la guerre des territoires, toujours d'après les enquêteurs.
Des mauvais polars, une guerre qui a fait de nombreuses victimes à Marseille.
2023, ça a été l'année la plus meurtrière des règlements de compte qui ont fait jusqu'à une cinquantaine de victimes. Quand même, Félix Bingui n'a d'ailleurs plus mis les pieds à Marseille à partir de ce moment-là. Établi uniquement à l'étranger, principalement au Maroc. 2 de ses lieutenants ont par ailleurs été assassinés en Espagne au printemps 2023. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Marseille va donc évidemment être placé sous très haute sécurité. Félix Bingui conteste la totalité des faits qui lui sont reprochés. Trafic, association de malfaiteurs, blanchiment. Il nie tout et on le répète avant le procès, il est présumé innocent. En tout cas, le nom du clan Yoda est choisi, vous l'aurez deviné, en référence à Star Wars. Le nouvel épisode de la saga sort mercredi au cinéma, mais c'est au tribunal correctionnel de Marseille que se trouvera Félix Bingui.
Merci Virginie Fulpin.
Deux salles, deux ambiances, comme on dit.
C'est à peu près
plus
ça.
Plus les boîtes de nuit que les salles de ciné, mais bon. Il est 5h45.
Et je vous rappelle qu'on joue ce matin, on joue au mot caché qu'on a
prononcé
une petite fois. Ouais, c'était un peu mollasson, on va y revenir. Un mot qui sort de l'ordinaire, si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 7 32 16. Et qu'est-ce qu'on gagne?
Ah, la station météo, la Crosse Technologie, le leader français des données météo. Je réfléchissais à comment placer le mot caché. Ça va venir dans des instants. Dans quelques... Franchement, montez le son. 5h46. Retour sur l'Eurovision. C'était ce week-end avec la victoire surprise de la candidate bulgare Dara. Bulgare, une star chez elle, hein, qui offrait sa première victoire à son pays avec un titre dance qui peut vous rester dans la tête comme vous agacer. De voir ce que ça va donner quand mes gamins vont tomber sur ce son.
On va couper samedi soir.
C'était samedi soir à Vienne, la 70e édition de l'Eurovision, vous le savez, la Bulgarie qui a séduit le jury et le public juste devant Israël, deuxième dans une édition marquée par le boycott de 5 pays, précisément pour protester contre la participation d'Israël. Déception française en revanche. J'écris ça chaque année. Déception encore, oui. Monroe et son opéra pop a séduit le jury, mais pas le public. La chanson Regarde ne termine qu'à la 11e place du concours. Près de 4 millions de personnes ont suivi l'Eurovision cette année. C'est beaucoup, mais c'est nettement moins que les 5,4 millions de l'année dernière.
Oh là là, on part sur... Et c'est pas de l'euphonie, ça.
À tout moment... Ah non, on est très loin de l'euphonie. Oh là là. Ouais, c'est... Mais ça réveille, non? Petite routine sport le matin.
Ça mérite de réveiller. Hein,
voilà. Et bon réveil à toutes et à tous. Il est 5h47. Les trois grands titres de l'actu de ce lundi, Élise.
Patrick Bruel sort du silence, lui qui est mis en cause par une trentaine de femmes pour des violences sexistes et sexuelles. Il assure dans un message sur ses réseaux sociaux qu'il n'a jamais forcé aucune femme. Gérald Darmanin, lui, est en Algérie. Le ministre de la Justice est le troisième à se rendre dans ce pays. Troisième ministre français depuis le début de l'année. Signe du réchauffement des relations entre Alger et Paris. Il sera question de coopération judiciaire et du cas du journaliste français Christophe Glaise, incarcéré depuis maintenant près d'un an. Et puis le dénouement de la saison en Ligue 1. Lille, directement qualifié pour la Ligue des Champions. L'OM sauve les meubles et jouera la Ligue Europa. Auxerre se sauve et Nice jouera les barrages.
Il est 5h48.
RMC, à votre service.
Les carburants qui coûtent toujours aussi cher et on n'oublie pas de les surveiller, d'en parler, de vous écouter. Les Français qui s'adaptent. De plus en plus d'automobilistes ont trouvé une parade. Louer leur voiture entre deux utilisations, louer leur voiture sur des plateformes comme Turo ou Getaround.
Bonjour Marie Reboul.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes la directrice générale de Getaround Europe et c'est... Ma première question, est-ce que c'est la ruée, est-ce que c'est la crise du carburant qui explique la ruée sur votre application?
Alors, bon, on a une croissance continue ces dernières années, hein, parce que du côté des propriétaires de voitures qui s'inscrivent, le coût de possession d'une voiture, il n'a fait que augmenter ces dernières années. Mais là, c'est sûr qu'il y a un effet direct de la crise des carburants. On a une augmentation qui est très marquée en quelques semaines. Et ce que ça traduit, c'est vraiment une facture voiture qui explose et des propriétaires qui cherchent à compenser.
Mais alors, je voyais plus 36% de voitures inscrites chez vous en mars dernier par rapport à mars de l'année d'avant. Cela dit... le carburant, il reste aussi cher qu'on loue la voiture ou pas. Là, l'idée, c'est d'amortir la propriété de sa voiture.
Exactement. Bah, l'intérêt de la location entre particuliers, c'est de réduire les frais comme l'assurance, l'entretien, le stationnement, enfin tous les frais associés à la voiture. Et là, maintenant, le carburant, surtout, qui a pris une place très importante dans ses budgets. Hein, on parle de... C'est plus de 400 euros par mois, une voiture. Donc, vous allez louer votre voiture quand vous ne l'utilisez pas et vous allez réduire ce budget-là.
De combien on peut espérer gagner quand on met sa voiture en location?
Si vous louez votre voiture un week-end, vous allez pouvoir toucher entre 50 et 100 euros. Mais après, ça dépend du prix que vous allez fixer, du type de voiture que vous avez, de la localisation. Pendant des vacances scolaires, vous allez pouvoir toucher quelque part entre 250 et 500 euros selon l'endroit, selon la saison.
Bon, il faut préciser que ce que vous apportez ces nouvelles plateformes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de se retrouver, de signer un contrat en bonne et due forme sur le capot de la voiture. Concrètement, on ne voit jamais la personne qui loue notre voiture.
Alors ça dépend, vous pouvez choisir de l'avoir, il y a deux systèmes, soit vous faites installer un boîtier et tout est dématérialisé, sinon vous rencontrez la voiture, vous rencontrez la personne, pardon, au début de la location, vous échangez la clé, vous faites l'état des lieux d'entrée et de sortie ensemble, mais ça se passe via l'application, en photo, donc tout est digitalisé, sécurisé.
Et côté assurance, s'il y a un souci avec notre voiture, comment ça se passe ?
Bah nous, on va assurer chacune des locations qui est faite sur la plateforme. Donc c'est AXA qui assure les locations. Donc comme ça, ça touche pas à votre assurance personnelle. Et si jamais il y a un dégât sur la voiture pendant la location, bah vous le déclarez et puis on pourra, avec les photos d'entrée et de sortie, voir si ça a bien eu lieu pendant la location. Et après, c'est l'assurance qui prend en charge.
Et je reviens sur la crise, la flambée des prix du carburant. Est-ce que vous notez plus de locations de voitures électriques ? Est-ce que ceux qui louent tentent de réduire la note comme ça ?
Oui, absolument. C'est vrai que d'habitude, c'est pas les voitures les plus recherchées parce que les utilisateurs ont un peu peur de l'électrique. Mais là, on a vu plus de 75% de recherche en plus pour des véhicules électriques par rapport à l'année dernière.
Oui, et alors pardonnez-moi, parce que vous dites que les gens sont un peu sceptiques. Moi, je suis passé à l'électrique, j'ai commencé par louer. C'est aussi une manière de l'essayer,
non ? Vérifier.
Eh ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez passer par la plateforme, vous louez quelques jours et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu.
Ou une autre,
bien sûr, mais bon, la mieux est quand même la plus développée en Europe.
Moi, je trouve que il y a quand même un sujet au-delà de cette crise des carburants sur la propriété de la voiture aujourd'hui. Je pense à des modes de vie urbains. Quand on habite à la campagne, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, on a besoin d'une voiture. Mais quand on a un mode de vie urbain aujourd'hui, on se dit que c'est quand même plus pratique de louer régulièrement une voiture que d'en être propriétaire là où il y a plein de frais, plein de coûts différents.
Bah, c'est sûr que ça coûte moins cher, même si vous louez tous les week-ends, toutes les vacances, ça vous coûtera toujours moins cher de louer la voiture d'un particulier que d'avoir une voiture que vous possédez vous-même. Maintenant, c'est sûr que, voilà, tout le monde, vous l'avez bien dit, hein, tout le monde peut pas se passer d'une voiture au quotidien, on n'a pas toujours les transports en commun, mais quand on vit dans une ville, en général, on peut compenser par autre chose pendant la semaine et utiliser la voiture juste à la demande.
Puis vous avez besoin qu'il y ait encore quelques propriétaires. Sinon, ça marche plus. Merci beaucoup, Marie.
Évidemment. Merci à vous. Bonne journée. Merci.
Directrice générale Europe de GetAround. Vous connaissez ces plateformes, vous les utilisez ou pas? Est-ce que vous arrivez à amortir? Pardon, moi, ceux parmi nos auditeurs qui loueraient leur voiture comme ça à des particuliers, si vous arrivez à amortir un peu le coût de l'assurance, le coût des carburants en ce moment, vous nous le dites. Au 32-16, il est 5h52.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
On le retrouve à 8h45 pour Face à Canteloup. Tout de suite, on se met déjà dans l'ambiance avec le meilleur de Nicolas Canteloup.
Selon Paris Match, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani serait à l'origine de la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président. Vous confirmez avoir eu des échanges avec l'actrice franco-iranienne ?
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.
Alors, on parle d'une relation uniquement platonique ?
Elle court la maladie d'amour.
Votre épouse Brigitte a démenti ces informations. J'imagine que vous en avez parlé ensemble. Que lui avez-vous dit ?
Ne me quitte pas, il faut oublier tout.
Ouais, je vous confirmez. En fait.
Mais non, mais rien du tout, cher Mathieu Béliard. C'est les bêtises de la presse people. Vous connaissez, ça fait vendre. Pardon, mais avoir des maîtresses, c'est quelque chose dont on ne peut pas me soupçonner. Hein. C'est un truc de président de gauche. Voilà. Et pour que ce soit clair, une bonne fois pour toutes, dans l'avion, il n'y a rien eu. Hein. C'était pas une gifle. C'est Brigitte aime juste chahuter, voilà. Et je chante ce refrain qui me plaît. Elle me tape. C'est sa façon de m'aimer.
Ouais. Merci, Monsieur le Président.
Vous en prie.
Donald Trump est en Chine. Il rencontrera Xi Jinping. On va essayer de comprendre les enjeux de ce sommet avec le plus fin connaisseur de la Chine en France, Jean-Pierre Raffarin.
Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. FFIRIED. Écoutez, Donald Trump est le président Xi Jinping, c'est une rencontre qui fait plaisir. C'est un beau roman d'amitié qui commence entre les deux. Magique adolescence où tout est un jeu. Vous voyez que le président Macron n'a pas le monopole du champ juste.
La paix en Iran, est-ce qu'elle dépend de cette rencontre ?
Écoutez, les deux dirigeants, à l'évidence, souhaitent la paix. Et la paix, vous le savez, c'est la volonté, Stéphane Bureau, nous en parlions tout à l'heure. La paix, c'est la volonté d'avancer ensemble, l'un vers l'autre, en direction de la marche arrière du conflit qui les oppose, et de faire un grand pas en avant sur les rails de la réconciliation pour déployer les ailes du navire mondial sur le chemin pentu de l'harmonie universelle.
Merci, Monsieur Raffarin. Nicolas Sarkozy nous a rejoint dans le procès du financement présumé libyen de sa campagne de 2012. L'avocat général a requis 7 ans de prison.
Quelle indignité, Mme Pujadas. Une réquisition de 7 ans de prison contre moi. Vous croyez qu'il n'y a pas mieux à faire comme réquisition? On est en pleine épidémie. Et pas plutôt des masques à réquisitionner, hein, des soignants réquisitionnés, des blouses blanches à réquisitionner. Mais ne vous inquiétez pas, M. Béliard. J'assume responsabilité. J'irai en prison. Mais la tête haute.
Vous avez peur de l'épidémie, d'un futur confinement?
Non, écoutez, être à l'isolement, j'ai déjà fait ça pendant 21 jours. C'est juste que si on est en cas contact, on est mis en quarantaine 45 jours. Et pour tout vous dire, les 45 jours, ça ne m'arrange pas. Non, parce que 45 jours, pour écrire un livre, c'est un peu long. Et pour en écrire deux, c'est un peu court. Après, ça dépend si c'est 45 jours ferme ou avec sursis. Si c'est une quarantaine qui peut être aménagée avec un bracelet électronique. Si on peut se faire peut-être une auto-attestation de sortie de prison. Mais bon, je vous rassure, j'ai fait un test PCR. Ah. Je me suis auto-testé tout seul dans ma narine que j'ai. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma narine? Et ça, c'est imparable. Que j'étais négatif à la culpabilité. Mais je le savais, j'avais aucun symptôme. Je marchais la tête haute. Mais oui, la tête haute, parce que sinon, quand on marche la tête basse, il y a le nez qui coule. Donc c'est QFD.
Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 pour Face à Canteloup avec Apolline de Malherbe. Et évidemment, si vous voulez retrouver Nicolas Canteloup, eh bien c'est sur l'appli RMC que ça se passe.